Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le président béninois Patrice Athanase Talon joint l'acte à la parole et rentre dans l'histoire par la grande porte. Il vient de choisir un dauphin pour la prochaine présidentielle, c'est-à-dire la présidentielle à l'ordre de 2026. Il met désormais sa confiance sur Romuald de Wadani, son ministre de l'économie et des finances, âgé de 49 ans. Et que pensez-vous de cette dynamique dans la démocratie béninoise? Nous allons aborder bien sûr le sujet en répondant bien sûr à cette question. Nous aborderons ou nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 2 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Gbetomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakwame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous savez que vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Eric Pakoudjo-Johnson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Claude, chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
J'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
Claude Assiobotis, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal.
Voilà, et on dirait pratiquement un mois, on ne s'est plus vu. C'est par rapport au programme à l'ordre d'anniversaire de Radio Canal FM. Ça a été une parenthèse quand même que nous avons animée.
Ah oui, mais ça s'imposait.
Ça s'imposait. Ça s'imposait, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, ça m'a permis aussi de me reposer et d'aller sur d'autres fronts.
Et de te ressourcer.
De me ressourcer, voilà.
Mais je ne sais pas pourquoi Eric insiste sur le fait que tu t'es ressourcé.
Non, mais il est tout frais, là.
Ah, mais justement, avec son chapeau cowboy.
Chapeau melon, oui.
Oui. C'est vrai, vous êtes écrivain, coach et critique littéraire. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle œuvre dans notre thématique en cours intitulée « Corps de femme et femme d'esprit ». L'œuvre en question, c'est un recueil de nouvelles qui a pour titre « Frontières du jour », dont l'auteur est Kumialo Anaté, qu'on ne présente plus. Sinon, qu'elle est universitaire et ancien ministre de la communication. Nous n'allons pas nous intéresser à toutes les nouvelles de l'œuvre, nouvelles que d'autres thématiques prendront ultérieurement en compte ou en charge. Et conformément à notre thématique actuelle, nous allons nous intéresser à deux nouvelles aujourd'hui. La nouvelle intitulée « Le rapt » et le mardi prochain à une deuxième titrée « La colombe blessée ». Claude, pour les auditeurs, d'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle ?
Une nouvelle, c'est un petit récit. Un petit, non pas sa qualité, hein, mais par sa quantité, c'est-à-dire le volume. La nouvelle a le mérite d'être courte, mais dense, concentrée et sucrée, si elle est réussie. Cela va relativement d'une page à moins de 200 pages. Ça peut, il y a donc de courtes nouvelles, très courtes nouvelles. Et il existe aussi de longues nouvelles qu'on peut assimiler à un petit roman. L'exemple, c'est la Symphonie pastorale d'André Gide, Pierre et Jean de Guy de Maupassant et le Mandat de Samben Ousmane. Ce n'est que des exemples. Même le récit de Kouchoukalo Tchassim qu'on a étudié la dernière fois. Oui. Qui,
et on a eu même
on peut
ici en studio.
Oui, on peut penser au récit comme une nouvelle, une longue nouvelle. Et vous allez remarquer que l'intrigue est très serrée et très concentrée et efficace. C'est ça la nouvelle.
C'est ça la nouvelle. Voilà. Alors Claude, intéressons-nous à cette nouvelle alors de Kumelo Anaté, le rat. Et c'est une violence faite au corps et à la dignité de la femme. Et on se demande comment ce récit est raconté d'une façon aussi simple et si touchante et poignante.
Oui, d'abord, qu'est-ce que le rapt? Rapt, R-A-P-T. Le rapt, c'est une pratique traditionnelle qui consiste à kidnapper, enlever une femme et l'épouser après l'avoir violée, déviergée.
Ça existe encore?
Ah oui, non. Justement, ça se fait rare. Mais c'était plutôt courant dans les temps anciens où nos mères et nos grand-mères se mariaient nécessairement vierges. Ici, dans cette nouvelle, nous sommes plutôt à une époque relativement moderne, puisque la victime ici est une élève de 16 ans. Aujourd'hui, on parlera plutôt d'un rap doublé de pédophilie, que la loi ne pardonnerait pas. Oui, le rap, c'est un mariage forcé qui viole le corps et la dignité de la femme. Mais qu'est-ce qui donne, là, c'est ta question même, qu'est-ce qui donne à une nouvelle si triste, une chaleur à la lecture ou à ce récit. Ce qui donne une chaleur à ce récit, c'est plusieurs choses. D'abord, le choix du narrateur, ou nous dirons de la narratrice. Celle qui nous raconte l'histoire du rapt est aussi une femme. Donc il y a forcément une complicité affective entre cette narratrice et le personnage victime de viol, nommé Candide. Vous savez, lorsque vous allez au tribunal, vous avez un problème de femme, il vaut mieux choisir un avocat femme. Ça fait un plus. Si c'est la même chose ici, l'auteur a fait en sorte que la narratrice, ce qu'il raconte, le regard, ce qu'il raconte, soit une femme. Et la victime s'appelle Candide. Le lecteur n'est donc guère étonné de voir cette narratrice témoin ressentir une compassion. Vivre une empathie du fond de ses entrailles par rapport à la victime, par rapport à Candide. Je pèse bien mon mot lorsque je parle de témoin, car ce qui communique une grande sensibilité, une réelle émotion aussi au lecteur, à travers ce récit, à l'écriture simple, c'est ce que nous appelons en littérature le point de vue. Toute l'histoire est filmée par le regard de la narratrice. Il se fait qu'elle a une infirmière, notez bien, une infirmière affectée dans ce village reculé au sens géographique et moderne. En sa qualité d'infirmière, c'est donc une femme moderne et instruite qui devient la narratrice qui porte son regard clinique très loin pour diagnostiquer cette blessure qu'on était en train de faire au genre féminin. Un regard qui se fait à la fois médical, sociologique, psychologique, critique. Un regard qui non seulement veut soigner, mais juge, commande ce qu'il voit. Voici par exemple le portrait qu'elle donne du mari de la victime.
Oui.
C'est plutôt un vieil homme qu'on a nommé. C'est un vieil homme, il est nommé Lal. On peut imaginer, on peut deviner la région d'où vient le monsieur, le bourreau de Marie, un vieil homme une monstruosité innommable, une joue plus haute que l'autre, des lèvres difformes qui se ferment difficilement. Et il y a un goitre qui lui serre le cou. Voilà l'homme, hein, l'homme, le beau gars, qu'on veut imposer à Candide. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille enlevée? Je laisse le texte parler un peu à la page 125.
D'accord.
Si vous voulez. Candide avait refusé d'épouser l'homme auquel elle avait été promise quand elle était encore bébé. Elle était jeune et voulait finir sa scolarité. Et puis, elle aimait quelqu'un d'autre. La famille de Candide avait une dette de femme envers la famille du mari forcé. Le frère de Candide a pris femme dans la famille de Lalle et devait en retour donner une femme pour compenser le départ de l'autre. Femme contre femme. Avec ce procédé de réparation, tous les hommes avaient en théorie le droit de prendre femme, quel que soit leur physique, leur état psychique ou leur situation matrimoniale. La nuit était dense. Candide raccompagnait une de ses coulisses venue lui rendre visite. Quatre hommes vigoureux, surgis de nulle part, la capturèrent. Elle fut cachée dans un couvent secret. Puis elle fut droguée et violée par son mari. Elle perdit aussi son identité, mais reçut une grossesse en cadeau. Le lien était ainsi définitivement scellé. Et avant de quitter le couvent, des cicatrices en forme de grenouille sur les bras et la paroi postérieure du cou et de longues autres cicatrices qui lui labouraient les tempes de haut en bas, lui confèrent un masque permanent sur le visage. Voilà ce qu'on a fait de Candide, hein, ce qu'elle a eu comme, voilà le mariage, célèbre célébration de mariage.
Célèbre célébration, avez-vous dit. Hein. Et Claude, comment interprétez-vous le dernier geste de cette femme violentée? C'est-à-dire, elle donne son bébé cadeau à l'infirmière.
Oui, on a appris là, dans le texte qu'elle a été encétée, agrossie par le monstre de Marie. Et il en est sorti un enfant. Et cet enfant, elle va disparaître et laisser en cadeau sa fille qu'on peut, son enfant qu'on peut deviner fille, hein, à son témoin, à l'infirmière. Elle a confié à l'infirmière, elle a disparu du mari. Et c'est ici que cette femme se révèle une femme d'esprit, hein. On peut en tirer une leçon philosophique,
oui,
hein, et c'est que chaque être est ordinaire, et le mot est de Sartre. En situation, hein, le mot situation, c'est de Sartre. Chaque homme ordinaire, hein, peut se révéler un héros, hein, et transgresser les normes, hein, rétrogrades. C'est ça. Hein, et chaque homme peut se révéler un héros. Ici, c'est une héroïne. Et c'est un geste de révolte, de martyre silencieuse, hein, qui doit faire réfléchir le milieu. C'est pourquoi elle a disparu. Et laisser l'enfant. En même temps, elle veut sauver son enfant qu'on peut deviner fille, comme je l'ai dit, la sortie de cette prison culturelle, véritable prison culturelle, et confier son avenir à la modernité. Voilà à peu près ce qu'on peut, comment on peut interpréter ce geste.
D'accord. Et justement, une belle interprétation.
Hein, ce n'est pas un abandon.
Non. Ouais. Mais c'est également une résistance. Et face justement à ce, tel que vous l'avez dit, à cette norme rétrograde. Et Eric,
une résistance ou une résilience?
Tout à fait, on pourrait justement l'exprimer ainsi.
Oui, plutôt une résilience. Vous savez, j'ai pas lu cette nouvelle-là, mais j'avoue qu'il y a quand même une description qui m'a touché. Et on en avait parlé, comment dans le temps, les gens faisaient ce rapt-là, on prenait les filles dans la rue, on l'amenait à la maison, et puis c'est fini. Tu deviens une femme au foyer. Et je me dis, cette pratique-là n'existe plus aujourd'hui. Par contre, si Madame Koumealo a eu à écrire sur cette pratique-là, je retiens quand même qu'il y a d'autres pratiques similaires qui se passent aujourd'hui encore dans certaines communautés. Et on parle de mariage forcé, on parle de mariage non désiré, ou comment vous appelez ça. Mais si c'est toujours ce que nous disions ici, hein, sur la chosification de la femme. Il faut que, par exemple, par rapport à ça, il n'y a aucune loi. On n'a jamais rédigé ou voté une loi contre cette pratique. Mais en le faisant, est-ce que c'est pas un appel qu'elle est en train de faire vis-à-vis des législateurs? Parce que ça peut se passer toujours, que quelqu'un trouve une femme dans la rue, qui l'amène à la maison, qui la violente, la viole, et après, ça donne une grossesse, un enfant, et on dit, bon, vous avez déjà un enfant, ce n'est plus la peine d'en faire une histoire. En ce moment, est-ce que ça protège la femme?
Oui, moi je verrais plutôt... prendre le mot, rebondir sur le mot que vous avez, ou l'expression que vous avez utilisée, il n'y a pas une loi. Non, je crois que ça se déduit. La violence, on ne sait pas. Il y a des lois lorsque une situation est suffisamment protégée par des lois qui existent déjà. Ce n'est plus la peine de l'identifier et de lui consacrer, d'y consacrer encore une loi. Hein? On ne peut pas aujourd'hui aller prendre une fille et l'épouser son gré. C'est punissable, très punissable. Il y a déjà une violence. Hein? Et en plus, la violer. Bon, si la femme se plaint, la famille peut... Parce que c'est une affaire sensible, c'est culturel. Si la famille ne se plaint pas, ben, il n'y a pas de problème. Mais si la fille, même contre l'aveu de sa famille, se plaint, alors vous êtes cuit. Vous avez des problèmes avec la loi. Hein? Ça, c'est sûr. Il y a plein de textes qu'on peut utiliser, hein, pour vous remercier de ce que vous avez fait.
Merci. Un donneur universel.
Oui, oui, pourquoi pas.
nous sommes rejoints par Esaïe Edo. Esaïe, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour auditeurs et auditrices, bonjour aux confrères autour du plateau.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, et on rend grâce à Dieu.
Nous sommes en train de parler alors de cette question de violence, hein, faite aux femmes. Tout récemment, on sait quand même que cette thématique a fait aussi l'actualité, et il y a même la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme qui a pris, hein, un certain nombre de décisions. Et pour ce qui concerne alors le rapt, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus en tant que tel, mais quand on parle alors de la violence basée sur le genre, on voit cela quand même dans la société.
Oui, on le voit dans la société. Je crois on avait déjà parlé d'un sujet similaire ici. Et ce que j'avais dit, c'est que progressivement, je crois quand même que il y a une diminution. C'est vrai, vu l'impact de ces violences, on aimerait que ça s'arrête, en tout cas du jour au lendemain, de façon un peu plus rapide. Mais quand c'est des pratiques qui, pendant longtemps, ont été entre griffes acceptées d'une manière ou d'une autre, c'est quand même difficile que du jour au lendemain, que cela s'arrête. Du coup, je pense quand même que les organisations, que ce soit les organisations, l'État, tout le monde fait sont possibles quand même pour que cela puisse s'arrêter. Et je crois quand même qu'il y a déjà des impacts. Et moi, je ne doute pas que ça va arriver, parce qu'aujourd'hui, les auteurs de ces violences quand même se retrouvent quand même, enfin, je dirais qu'ils ne se sentent pas, hein, heureux quand on parle que voilà, c'est eux qui sont les auteurs de ces actes-là.
Ils sont en difficulté.
Oui, ils se retrouvent en quelque sorte en difficulté. Et cela, c'est déjà un signe comme quoi ça va s'arranger, parce qu'il y a des gens qui commettent de ces actes et qui, par après, expriment le regret. Ça voudra dire que, quelque part, on sait que on ne doit pas continuer de faire usage de ces pratiques. Donc, moi, j'ai foi quand même que ça va. Nous allons connaître une réduction totale de cela, pourquoi pas la fin de cela. Mmh. Avec l'effort que tout le monde fait aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire des organisations entre griffes féminines, c'est tout le monde maintenant qui est dans le combat, et c'est déjà un bon signe.
Mais c'est déjà un bon signe. Merci beaucoup à Claude. Et Claude, oui, on souhaiterait que vous soyez avec nous pour la suite alors du débat, mais si je ne sais pas si votre agenda vous le permet, et sinon...
Bon, je peux résister en comptant la minute.
D'accord. Mais ça, ok, merci de résister en comptant les minutes. Alors, nous abordons notre premier sujet, premier sujet alors pour cette émission. Et c'est Eric, c'est vous qui nous donnez ce premier sujet. C'est par rapport à ce vaccin, le vaccin contre le paludisme. Vous écrivez programme élargi de vaccination au Togo, introduction du vaccin contre le paludisme. Et vous écrivez à la suite de cela, il s'agit du R21/matrice-M expérimenté, introduit déjà dans 20 pays depuis 2024, un complément aux autres moyens de prévention du paludisme.
Oui, on l'avait déjà écrit la semaine dernière en annonçant quand même que le Togo va introduire le vaccin contre le paludisme dans son programme élargi de vaccination. Et donc, hier, effectivement, nous avons pu contacter le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, où le directeur de la communication nous a beaucoup aidé pour mieux comprendre ce que c'est que ce vaccin contre le paludisme, puisque n'oublions pas qu'il y a quelques jours, depuis que il y a une délégation togolaise avec à sa tête le président du conseil était au Japon, et après une audience qu'il a accordé à la présidente du Gavi, et on avait annoncé que le vaccin contre le paludisme serait introduit au Togo. Et donc, des voix ont commencé à s'élever pour dire non, que ce n'est pas un bon vaccin, que ça va créer des problèmes aux enfants à qui on va administrer ce vaccin-là, etc. Et donc, hier, nous avons cherché quand même à comprendre un peu plus ce que c'est que ce vaccin. Et c'était, il nous a été dit que la cérémonie se faisait même hier pour l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination au Togo. Donc, à partir du jeudi, à Sokodé, il y aura une cérémonie officielle où on va commencer puisque actuellement, ce qu'on a fait, c'est de mettre ce vaccin-là à disposition des centres de santé dans tout le pays. Il y aura une cérémonie officielle jeudi, je crois, à Sokodé. Alors, les inquiétudes des gens se fondaient sur un autre vaccin contre le paludisme. Et ce vaccin, c'est le RTS/S ou encore Mosquiris. Et ce vaccin-là a été aussi expérimenté, mais les résultats n'ont pas été aussi performants que le vaccin qui sera introduit dans notre programme élargi de vaccination, qui est le R21/M. Ce vaccin-là se trouve depuis l'année dernière dans presque 20 pays en Afrique. Et donc, c'est un vaccin qui a été fabriqué en Afrique, en réalité, qui a été découvert en Afrique, mais qui est fabriqué, je crois, au Canada, mais qui déjà a fait ses preuves. Pendant une année, cette expérimentation a permis de voir qu'il y a une diminution de taux de paludisme dans les pays où ça a été introduit, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et d'autres pays encore. Et donc, on a vu qu'il y a eu une diminution jusqu'à 12-13% dans certains pays, dans d'autres, c'est au-delà. Et donc, je crois que c'est un vaccin qui sera administré aux enfants à partir de 5 mois. C'est ce que le programme dit aujourd'hui. Et donc, ça va se faire chez nous. D'accord. Et je crois que c'est déjà une bonne chose parce que nous en souffrons terriblement. Le paludisme, c'est la maladie qui tue plus chez nous.
Oui, en Afrique.
En Afrique. Et donc, voilà.
Claude, c'est vrai, Eric l'a dit, le paludisme, c'est la maladie qui tue plus en Afrique, notamment les enfants qui sont victimes alors de cette maladie. Et quand on parle aujourd'hui d'un vaccin, là, nous pourrons quand même nous réjouir de ce qu'il y a un vaccin aujourd'hui pour cette maladie.
Vous savez, il est vrai que dans l'industrie pharmaceutique et généralement dans le domaine médical, il y a beaucoup de soupçons, bien sûr, hein, mais nous devons éviter d'être des complotistes, hein, d'être trop pessimistes. S'il y a un sujet qui nous rassemble tous dans ce pays, c'est un sujet comme ça. Hein, on ne peut pas... On doit avoir un minimum de confiance aux autorités. Que avant d'introduire des choses comme ça, c'est sûr que des précautions seront prises, le corps médical serait mis à profit. Et ça, moi, ça me rassure. Je ne peux pas.
Nous ne sommes pas le premier pays à l'introduire.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et il faut savoir, il n'y a pas de risque zéro. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous bénéficions d'un héritage du passé qui a été mortel et dangereux parfois, hein, et aujourd'hui, nous en bénéficions. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle, à mon avis. Hein. Il faut la prendre comme ça.
Esaïe, c'est vrai que quand on prend la crainte de certains, c'est par rapport surtout au fait que, déjà, quand on prend les industries pharmaceutiques aujourd'hui, c'est pour faire... Alors, il y a au-delà même d'ailleurs de leurs prérogatives qui constituent à soigner. Et il y a cette question également de faire alors de la rentabilité pour ces sociétés. Et finalement, il y a certains quand même qui se basent alors sur cela pour dire que, mais écoutez, ce qu'on nous propose, est-ce que c'est fiable?
Oui, je pense que ceux qui s'interrogent sur la fiabilité ont tout à fait raison. Maintenant, il revient aux industries pharmaceutiques ainsi que à nos autorités qui ont autorisé, bien évidemment, l'introduction de ce vaccin dans notre pays, de convaincre ces personnes. Et je pense que c'est sur cet aspect que moi, personnellement, je ne suis pas d'avis avec les autorités. L'information, moi, je l'ai eu la semaine dernière à la suite d'une rencontre que le service une division du ministère de la Santé a organisé avec certains acteurs impliqués dans le processus de vaccination au Togo. Et là encore, l'information n'a pas été vraiment, je ne sais pas comment je vais le dire, on n'a pas détaillé vraiment que voilà, nous allons introduire. Moi, je fais partie des personnes qui ont réécrit pour dire voilà, c'est à partir du 1er septembre. C'était juste dit que c'est une formation pour informer les acteurs que sur le processus, comment est-ce que le vaccin va être administré et tout. Mais à la population, puisque d'après ce qui a été dit, c'est désormais systématique dans les centres de santé.
De santé.
Vous allez avec un enfant de moins de, à partir de 5 mois, je crois que c'est 4 doses d'ailleurs, mais la première dose c'est pour 5 mois. Et donc quand vous allez, c'est systématique. Mais quand c'est comme cela, pourquoi l'information s'est arrêtée au niveau seulement du personnel qui sera déployé pour administrer? Mais les personnes qui sont censées recevoir les vaccins n'ont pas l'information. Je vous assure que si vous demandez maintenant dans les ménages, si les gens sont au courant, il y a très peu de personnes qui sont informées que c'est à partir du 1er septembre. Et le 1er septembre, c'était hier. Et donc, quelle communication a été faite sur la chose? On s'en souvient quand il s'agissait de la vaccination contre la COVID-19. Oui. Tout ce qui s'est entouré de ces vaccins. Les rumeurs par là, par ici, comme quoi c'est pour nous tuer, c'est pour nous empoisonner. Et tenez-vous bien, c'est hier, tard dans la nuit, moi je lisais sur une plateforme où quelqu'un a écrit alerte que voilà, que les autorités en complicité avec des industries sont en train d'introduire du poison pour tuer progressivement nos enfants. Je crois qu'avec l'expérience qu'on a eue dans le cadre de COVID, l'État devrait déjà, bien avant, même si c'est 2 semaines, qui moi j'estime très peu, commencer par communiquer, informer la population de ce qui va se faire. Vous savez, le paludisme, comme le disaient les autres confrères ici, c'est la maladie qui tue le plus en Afrique, surtout les enfants. Mmh. Et donc, quand c'est cela, et qu'on amène aujourd'hui un vaccin qui est la solution, il va falloir quand même collaborer ou encore travailler avec toute la population pour que ça soit accepté. Après tout, c'est pour le bien de nous tous. Mais quand l'information n'y est pas, vous allez voir, les parents seront réticents en envoyant leurs enfants pour cela. Donc, je pense que sur le plan de la communication, il y a beaucoup de choses à faire pour amener la population à adhérer. Nous le disons toujours qu'en matière de communication, le gouvernement, il en manque toujours.
Eric,
je pose une question. Je ne sais pas ce que vous mettez dans le mot systématique. Ce n'est pas obligatoire quand même.
Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, ça dit quand
même. Mais c'est conseillé, je comprends. C'est mais conseillé. Vous savez, nos populations, on se les connaît, hein, elles ne vont pas y courir. Mais lorsque la chose commencera à faire ses preuves, je crois que ça va rentrer dans les mœurs et ça ne posera pas problème.
D'accord. Et Eric, oui, ce que Esaïe évoque, c'est-à-dire ce défaut de communication par rapport à ce programme de vaccination de lutte contre alors le paludisme, est-ce que ce n'est pas aussi vérifié? Parce que déjà, on se souvient de l'expérience alors de COVID-19, au cours alors de ce qui concerne la vaccination, il y avait même d'ailleurs tout un tintamarre hein, qui a été fait tout autour alors de cela. Beaucoup des pour alerter, non seulement alerter, mais pour amener la population à s'impliquer dans ce programme de vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment ce programme, enfin, ce défaut de communication?
Toujours. Mais moi, mon problème, c'est surtout quand quelqu'un a l'information et au lieu de la transmettre, essaie de... enfin, de faire une contre-campagne. Ce qu'il a dit tout à l'heure, je l'ai lu aussi, qu'on veut tuer les Togolais, c'est pour ça. Mais vous savez que cette information est déjà partie. Alors, il est parti de quoi pour donner, pour avancer cela? Il est parti du fait qu'il y aura l'introduction de ce vaccin-là dans le programme de l'agence de vaccination au Togo. Donc, l'information est déjà allée quelque part. Sauf que ce que nous disons, nous allons toujours le répéter, mais puisque visiblement, on ne nous suit pas, nous allons toujours continuer par faire notre travail. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ce que le fait même de mettre ce sujet-là en débat, c'est déjà beaucoup de communication. Essayons de donner quand même la bonne information nous-mêmes. Si le gouvernement pense que, bon, ils vont cacher des choses, je ne sais même pas ce qu'on cache. Mais moi, personnellement, hier, quand je cherchais l'information, j'ai appelé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On m'a donné l'information. Je crois que, bon, s'il n'y a pas rétention d'informations, c'est déjà une bonne chose.
D'accord. Oui, Claude, qu'est-ce que vous pensez alors de cette question, alors de soit de rétention d'informations ou le défaut même d'ailleurs d'informations sur ces programmes?
Non, moi je crois que je l'ai déjà dit. Hein, dans la vie, parfois dans les relations humaines, il faut savoir faire confiance. Ce n'est pas un vaccin qu'on a caché quelque part et qu'on va déverser et dans la population, dans les buts médicaux. Le corps médical serait associé. Hein? Et moi, je serais plus regardant réceptive aux réactions des gens autorisés qui peuvent parler au nom des autorités. Donc, il faut que qu'on fasse attention. Faut pas tout mêler. Faut pas tout mêler. Une fois que le corps médical est mêlé justement à ce sujet, qui est son sujet, qui le maîtrise, je crois qu'on doit lui faire confiance, à mon avis. D'accord. Les médecins ne vont pas comploter contre la vie de leurs enfants. Ils ont aussi des familles. C'est sérieux. Il faut faire confiance.
D'accord. Ouais. Il faut faire confiance. Esaïe, on a besoin quand même de faire confiance.
Oui, on a besoin de faire confiance, effectivement. Mais quand je parle de la communication, au-delà de faire confiance aux autorités, maintenant, il y a des gens qui sont à la maison qui ne sont pas informés. Nous le disons que c'est la maladie qui tue le plus. Et donc, ce qui voudra dire qu'il faut que les gens soient informés pour qu'ils aillent.
Selon les statistiques, selon les statistiques, en 2024, il y a eu 2 millions de Togolais qui ont contracté le paludisme.
Non, ce qui voudra,
c'est qui voudra, très important.
C'est important, ce nombre.
Le quart de la population.
Oui, ce qui voudra dire quoi? Que maintenant qu'il y a le vaccin, il faut que les gens aillent aussi vers les centres pour se faire vacciner. Que les parents envoient leurs enfants pour se faire vacciner. Et donc, quand il n'y a pas l'information, les parents ne seront pas pour aller vacciner leurs enfants. Au-delà des polémiques qui entourent le vaccin, je crois que la démarche des parents aussi est importante. Donc, il faut qu'ils soient informés également. C'est en cela que je parle de communication. Il ne s'agit pas seulement de rassurer la population sur la fiabilité du produit, mais aussi amener les gens à aller vers les centres pour justement se vacciner, pour éviter de tomber malade.
C'est-à-dire les impliquer, leur donner l'information, la vraie.
Voilà.
Alors, je voudrais ajouter ceci. Je crois que hier, déjà, il y a un docteur, un médecin qui est au ministère, qui a essayé de dire des choses très importantes par rapport à ce vaccin, puisque déjà ça crée polémique. C'est de dire, par exemple, aux parents dont les enfants seront vaccinés bientôt, que dès qu'ils regardent l'enfant et que l'enfant développe
des
réactions, des effets secondaires que les enfants n'ont pas d'habitude, de les signaler très rapidement afin que ces enfants-là soient pris en charge. Et surtout, quand l'enfant est vacciné, ça veut dire que la prise en charge là sera gratuite, quoi.
Je reste avec toi. On va parler cette fois-ci de l'agriculture. Vous écrivez « Première journée de l'agriculture familiale au Togo, dialogue inclusif et échange constructif autour des défis et opportunités ». Alors, on a le droit quand même de savoir quels sont ces défis et opportunités, justement en matière de l'agriculture familiale.
Mais il faut qu'on le dise, l'agriculture familiale, c'est le socle même de notre sécurité alimentaire et le développement économique du Togo. Faut pas oublier ça, parce que nous n'arrivons pas encore à faire une agriculture à grande échelle, une agriculture qui permette quand même de dire, ok, nous avons ça se passe aux États-Unis où les milliardaires sont ceux-là qui ont des plantations, Non, on a toujours fait une agriculture familiale. Et c'est quand on commence par aller au-delà des surfaces cultivables pour la famille qu'on commence par penser à exporter ou à vendre ce qu'on on a fait. Donc, il y a eu du 26 au 28 août les premières journées de l'agriculture qui se sont achevées avec la ferme conviction quand même que cette agriculture familiale-là doit se développer pour tomber sur l'agriculture industrielle, ce que nous tous nous souhaitons. Et donc, cette journée s'appelle la JAFAT, c'est c'est ça, hein, journée de l'agriculture familiale au Togo, Jafat. Et donc, il y a eu près de 250 acteurs qui étaient réunis pour réfléchir sur la chose, comment développer cette agriculture familiale-là pour que, véritablement, nous parlons de sécurité alimentaire, pour que nous continuions pas manger à notre faim, pour que les prix des denrées alimentaires s'abaissent sur le marché et pour que les jeunes ne crient pas tout le temps « nous avons faim ». Parce que au moins, il y a quelque chose, quand tu tournes, hein, tu peux aller mettre dans le ventre et te rassasier, en quelque sorte.
Claude, est-ce que vous avez l'impression que le curseur est plus mis aujourd'hui sur cette agriculture pour un développement de ce secteur?
Non, l'agriculture, c'est une promesse, hein, de développement pour toute l'Afrique. Mais agriculture familiale, bon, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article. Ça peut, peut-être, je n'ai pas lu, hein, ça peut peut-être apporter quelque chose, mais la solution n'est pas là. Lorsque les gens ont faim, c'est la grande agriculture. Et il faut mettre les moyens. Et je crois que dans
ce pays. Il faut avoir des ambitions, c'est ça.
Il faut avoir des ambitions. Et dans ce pays, je crois que ça a été un grand slogan, mais pourquoi ça n'a pas donné des résultats, j'en sais rien. Au point qu'il faut revenir au slogan de l'agriculture familiale, peut-être c'est la petite solution. Hein. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais je crois que. Ça ne répond pas à l'enjeu, à mon avis, hein, de le pouvoir à l'enjeu.
D'accord. Zahis, c'est vrai que on se souvient des faux pattes, hein, ce forum des paysans qui ont été organisés, même d'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, oui, il y a l'agriculture familiale, on parle de cette agriculture. Il y a Claude qui parlait même d'ailleurs de la grande agriculture qui doit avoir plus alors d'enjeux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'impact même d'ailleurs de ces forums organisés entre-temps?
Alors, s'il y a l'impact ou pas, moi, je ne saurais le dire tout de suite. Mais parlons de l'agriculture familiale, je pense que c'est important. Important dans la mesure où nous le disons souvent ici que l'agriculture, de façon générale, manque de financement. Manque de financement, de main-d'œuvre. En tout cas, il y a assez de problèmes au niveau de l'agriculture de façon générale, la mécanisation, l'irrigation et tout. Au même moment, l'agriculture familiale voudrait que ce soit sur de petites des espaces assez réduits. Et donc, quand c'est comme cela, chaque famille de façon organisée peut quand même arriver. Ce qui voudra dire que quoi? Eric parlait tout à l'heure que c'est le cœur.
Le
socle de la sécurité alimentaire. Ce qui voudra dire qu'une famille organisée peut quand même cultiver sur un espace assez réduit et puis avoir quand même le nécessaire pour se nourrir. Étant donné qu'il n'y a pas encore le moyen assez important pour développer une agriculture, je dirais industrielle, c'est-à-dire une agriculture qu'on fera et puis exporter par après. Et donc, déjà, si on arrive à promouvoir cela, ce serait une bonne chose. Maintenant, peut-être le risque, c'est que ceux qui n'ont pas cette possibilité ou des espaces pour développer ces agricultures, vont se retrouver peut-être en difficulté. Donc, ça doit être deux choses à la fois, c'est-à-dire promouvoir l'agriculture familiale et soutenir au même moment ceux qui développent l'agriculture sur de grands espaces. Et donc, je crois que le défi aujourd'hui est assez important pour l'État. Mais déjà, il faut commencer. Même ceux qui font l'agriculture à grande échelle peuvent trouver des espaces pour faire l'agriculture familiale, c'est-à-dire c'est ça qui revient à la famille. Et ça, c'est important parce que vous savez, il y a des agriculteurs qui produisent et qui mettent tout sur le marché et la famille même est dans le manque. Donc, si on arrive à promouvoir les deux, je crois que ce sera une bonne chose parce que l'agriculture, comme nous le disons, c'est le cœur, ça fait partie du cœur du développement, d'un pays. Mmh. Et nous connaissons notre population est plus agricole.
D'accord. Mais la question, la petite chose que je veux ajouter,
oui,
lorsqu'on parle de agriculture familiale, dans quel milieu? Est-ce que, bon, dans les milieux ruraux, c'est ce qui se fait déjà. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui existe déjà. Mais on fait appel à quelle population? Les populations citadines, s'il s'agit des citadins, où est-ce qu'ils vont trouver l'espace?
L'urbanisation aujourd'hui.
L'urbanisation, oui, bien sûr.
Il y a des difficultés à trouver les terres.
Moi qui suis ici, je vous dis que l'idée m'a trotté dans ma tête plus d'une fois. Mais je ne peux pas le faire à Lomé. Si je veux le faire, je serai obligé de retourner, par exemple, dans mon village, à Bouga. Et j'ai mon frère qui le fait, c'est parce qu'il est fréquent là-bas. Mais si moi, qui ne me déplace pas souvent, je dois le faire à Lomé. Et les terres à Lomé pour cultiver, et vous savez ce que c'est.
Claude, très franchement, je pense que nous-mêmes, on ne se rend pas compte des espaces que nous gaspillons, hein, et ces espaces-là qui pourraient nous aider à faire un peu de jardinage, un peu d'élevage et tout ça dans nos maisons. Oui. C'est une réalité. Tu voyages souvent, hein, tu prends le cas des Israéliens, par exemple, des gens qui ont commencé par faire le jardinage sur leur toit. Oui. Ça, c'est une organisation. Des gens s'organisent, les gens se disent, mais écoute, si nous n'avons pas de terre cultivable, où est-ce que nous pourrons le faire? Et ils font des serres, oui, sur leur toit, et ils plantent
les potagers
et tout ça. Oui. Ça constitue déjà l'agriculture familiale. Ça permet, oui, quand même d'avoir sous la main des produits qui peuvent nous permettre de vivre. Oui. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'aller rester au village, oui, pour faire l'agriculture. Faire l'agriculture au village, c'est que nous sommes en train de chercher des terres plus vastes ou penser à une agriculture industrielle. C'est ce que moi je pense par rapport à ce que vous venez de dire.
Oui, mais Claude, au-delà de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une urbanisation, la ville s'agrandit et tout, mais quand vous quittez Lomé, vous allez vers Thiviers tout de suite, il y a beaucoup de terres quand même qui sont encore
en qui ne vous appartiennent pas.
Oui,
voilà, exactement. Et puis, ce qu'il a dit, c'est.
Et qui ne sont pas exploités.
Exploités, bien sûr.
C'est une solution, ce qu'il a dit. Lorsqu'on pense au potager, la chose est faisable.
Oui.
C'est même encouragé. On peut même planter dans des bidons de, comment vous appelez,
bidons d'huile,
c'est encouragé.
D'accord.
Mais et j'avoue que mon frère, mon frère Isidore cultive le champignon chez lui à la maison.
Ah d'accord. Oui. Ça c'est encouragé.
Oui. Mmh. Alors qu'il est sur une maison à étage, donc voyez-vous. Non mais c'est des trucs qu'on peut développer et c'est pour la sécurité alimentaire.
Justement.
Et c'est très important.
D'accord.
Vous savez, à cette rencontre quand même, il y a eu des résolutions où on a encouragé quand même l'agriculture familiale pour protéger les familles, mais penser au-delà de cette agriculture-là à l'agriculture industrielle où les gens peuvent parler de mécanisation de l'agriculture, etc. Aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés-là. Il y a eu des projets qui ont coûté plus de 600 milliards, mais qui finalement n'ont pas permis l'industrialisation de notre agriculture. Et c'est vraiment dommage. Donc, je pense que il faudrait revoir la chose autrement pour que véritablement cette agriculture-là soit encore plus développée.
D'accord. On va quitter le sujet. On va quitter le sujet. Isaïe, on va s'intéresser à la politique. On sait, le samedi dernier, c'était justement le 30 août. Ça, c'est... Il y a le mouvement M66 et des organisations de la société civile qui ont organisé une marche citoyenne. Et nous avons vu tous ensemble comment ça s'est déroulé. Et finalement, est-ce que vous pensez vraiment que la chose a pris, telle que on a eu l'impression pour les autres manifestations?
Non, moi je suis pas surpris de ce qui s'est passé le samedi. Avouons que voilà ce à quoi beaucoup s'attendaient en se référant bien évidemment aux manifestations du mois de juin, c'était pas pareil. Et pour ma part, je le dis que je suis pas surpris parce que quand les manifestations de juin, notamment celle du 6 juin a été annoncée, on a l'impression que le gouvernement n'a pas, en tout cas, a minimisé un peu la chose, et on a vu ce que ça a donné. Mais pour cette fois, on a vu également comment le dispositif sécuritaire a été organisé de manière à empêcher tout ce qui est rassemblement qui va amener jusqu'aux manifestations. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu des affrontements, il n'y a pas eu, en tout cas, des bastonnades comme on l'a vu en juin. C'est déjà quelque chose. Toutefois, on a vu quand même des manifestations, en tout cas, même si c'est pas ce qu'on attendait, on a vu.
Mais Zahi, avec le dispositif sécuritaire qui a été mis en place, même d'ailleurs dans toute la capitale, est-ce que vous avez vu quand même qu'il y a eu manifestation?
Bon, quand je parle de manifestation, vous savez, quand on parle de manifestation, pour moi, ce n'est pas forcément une grande foule dans la rue. On a vu, par exemple, Madame Niakade qui a marché dans son quartier.
Donc, elle a commencé, mais elle n'a pas fini, parce qu'après tout, elle a été.
Elle allait où?
Non, ah, c'était pour la manifestation.
Je pense quand même que c'est de ça qu'il s'agit, en tout cas. Moi, j'estime que cette manifestation, en tout cas, même si cela n'a pas fait Madame Niakade et je ne sais pas avec qui elle était, nous ne sommes pas allés loin, mais c'est quand même un message. Un message comme quoi on a quand même manifesté. Et je disais tout à l'heure que ça, c'est déjà bon dans la mesure où il n'y a pas eu d'affrontement, on n'a pas vu des barricades sur les routes. Mais si on peut organiser des manifestations de telle manière, c'est déjà une bonne chose. Pourvu que le message passe. Et je pense que le samedi dernier, le message est passé. Ce qui voudra dire que certains ont dit qu'ils vont manifester pour dénoncer un certain nombre de choses. On les a vus effectivement et entre-temps, ils ont été empêchés. Au moins, il y a eu quand même un pas qui a été franchi. Et celui contre qui on manifeste sait aussi qu'effectivement, il y a des gens qui demandent ci ou ça et qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est déjà l'essentiel. On n'a pas besoin d'une grande manifestation, empêcher des gens d'aller à leurs occupations. Je pense que quand il y a des manifestations et il y a des barricades et tout, c'est nous-mêmes, nous nous plaignons du fait que les manifestants nous empêchent de vaquer à nos occupations. Mais si cette fois-ci, les autorités ont réussi quand même à mettre un dispositif qui a empêché que les manifestations ne causent de problèmes à ceux qui n'aimeraient pas manifester, c'est déjà quelque chose de bon pour moi.
Eric, est-ce que vous avez l'impression que ça a marché?
Mais quand on organise quelque chose, c'est qu'on a un objectif. L'objectif à atteindre, est-ce que c'est de montrer juste qu'on peut empêcher la population de sortir, qu'on peut passer un message? Est-ce que c'est ça l'objectif? Si c'est ça l'objectif, donc ça a marché. Par contre, si c'est pour faire sortir du monde dans la rue, mettre des barricades, empêcher le pays de fonctionner, là, je pense qu'il y a un échec parce que on n'a pas vu ça. Je fais une autre analyse de la situation en me disant que, au départ, tout ce qui appelait à des manifestations à l'extérieur, c'est-à-dire les Togolais de la diaspora, là, ils ont commencé par parler d'une situation sociale qu'est la faim des jeunes Togolais. Quand on dit qu'on a faim, ça veut dire qu'on n'a pas de travail, ça veut dire qu'on n'a pas de moyens pour vivre. Et donc là, on parlait d'un truc qui amenait tout le monde à être d'accord, c'est-à-dire la faim. Maintenant, on a vu que ça a évolué et ça devient aujourd'hui et Fogna Nsimbe quitte le pouvoir. Donc, vous-même, vous savez que quand ça devient un truc politique, il y a des tensions. Je crois que ça aussi, ça fait peur aux populations. Parce que à chaque fois qu'il y a une manifestation politique, ça dégénère. Et donc, les gens ont préféré rester chez eux pour ne pas être victimes de quoi que ce soit. Et donc, moi, je dis, si on avait continué pas aller dans le même sens de cette revendication sociale, je crois que ça pourrait mieux marcher qu'une revendication politique, où d'ailleurs, les autorités disent qu'ils n'ont pas eu, puisque nous sommes dans un régime de déclaration, les autorités disent que personne ne leur a signifié qu'il y aura une manifestation. Et donc, quand les gens disent que Madame Adjamagbo, Brigitte Adjamagbo, qui est présidente d'une formation politique, voulait sortir, on l'a empêché, oui, parce que elle aurait pu, en tant que dirigeante politique, aller déposer un truc que, voilà, notre formation politique ou notre coalition de formation politique elle va manifester. Je crois que ce serait encore plus logique. Mais dire que des gens appellent, hein, il n'y a pas de leader, il n'y a personne qui soit devant et qu'on demande une manifestation. Comment ils appellent ça? Ils disent spontané. Spontané, en quel sens où ça a été préparé, une date a été donnée, etc. Je pense que c'est pas la bonne pratique. Et donc, je me dis que on serait resté là, hein, on a faim, ça pourrait donner.
D'accord. Claude, oui, cette fois-ci, la particularité, c'est que les manifestants ont, enfin, les organisateurs, j'allais dire, les responsables de cette manifestation voudraient marcher alors sur les trottoirs et c'est là où justement ils vont exprimer, hein, cette annonce serait une manifestation citoyenne et pacifique. Mais au même moment, on a vu quand même le dispositif sécuritaire. Est-ce que ça veut dire que, tel que nous avons toujours l'habitude de le dire, l'espace civique devient de plus en plus restreint?
Oui, mais c'est ça la réalité. Hein, c'est ça la réalité. Je crois qu'au fond, ce que je peux appeler des progressistes qui veulent le changement, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent, ça le dit clairement, c'est une manifestation spontanée, hein, une manifestation spontanée, une réaction spontanée de la population, hein, pour obtenir ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Mais il se fait que l'espace est occupé par la peur, comme vous dites. Hein. Et lorsque on veut organiser une manifestation, et on la veut spontanée, à la fois spontanée, mais on l'assume pas, on la prépare pas, et on ne surprend pas. Hein. Et je crois que le problème qui se pose en réalité, Éric vient de toucher, il a prononcé une phrase, je crois qu'il a parlé des responsables qui n'ont pas assumé, n'est-ce pas, leur volonté de faire cette manifestation. Mais chaque fois que ça a été fait, chaque fois que les formalités de cette manifestation a été faite, je crois que le pouvoir a toujours cherché à torpiller, à trouver des moyens pour refuser, alors que nous sommes dans un régime d'information et non de déclaration. Et ça, c'est ça qui fait que ce qu'on souhaite finalement, c'est cette révolte spontanée, hein, c'est ça que les gens pensent en eux, et ce n'est pas nécessairement ceux qui sont sur le territoire et qui l'organisent, et ceux qui sont à l'extérieur, Mais comment ils peuvent être à l'extérieur et organiser à la fois une manifestation à l'intérieur? Ça devient compliqué. Ils doivent chercher d'autres moyens. Hein, et là où il y a tout le problème, c'est qu'on interdit dans le pays une vraie manifestation. Il faut laisser les populations manifester et en tirer les conclusions.
Et pourtant, c'est un droit du citoyen.
Oui, mais c'est un droit sacré. Hein, et tout le problème est là. C'est que un régime qui refuse une manifestation, c'est une violation, c'est la violation la plus déplorable, hein, de laisser une population manifester, de exprimer sa volonté.
D'accord. Vous parlez du régime, c'est oui. Bien sûr le régime alors de déclaration et non d'autorisation, bien sûr.
Ce n'est pas autorisation, mais en réalité,
l'information.
Oui, mais de fait, ils considèrent que c'est un régime
d'autorisation.
Ils font d'un régime d'information un régime d'autorisation. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
D'accord. On va quitter le sujet, on reste toujours en politique, mais nous allons au Bénin. J'annonçais cela, bien sûr, dans mes mots introductifs. Et nous avons tous ensemble appris ce choix de Patrice Talon. Et Patrice Talon qui nous a habitués à cette déclaration, hein, qui, selon laquelle, il ne va plus alors se présenter pour la présidentielle alors de 2026. Et pour joindre l'acte à la parole, le président béninois vient de choisir son dauphin et c'est bien le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, 49 ans, qui a été choisi justement pour représenter ou pour être candidat à l'élection présidentielle. Esaïe, là, est-ce que ça ne veut pas dire que le Bénin continue alors de nous montrer, enfin de montrer aux yeux du monde entier la voie de la démocratie et de l'alternance?
Je crois que c'est ce que tout le monde dit, que le Bénin justement continue de montrer que c'est un pays qui est sur une bonne voie de la démocratie. Et je crois que les Togolais particulièrement apprécient cela. C'est ce que moi j'ai remarqué, hein, depuis l'annonce du dauphin de Patrice Talon. Vous voyez les Togolais relayer l'information avec une certaine joie. Et au même moment, avec un certain regret, parce que il souhaiterait que ce soit, en tout cas, le cas au Togo. Je pense que cet acte que Patrice Talon a posé, c'est vrai, ça a salué, mais on attend encore jusqu'à ce que ça se matérialise effectivement. Vous savez, on est en politique, tout peut arriver. On a déjà vu de pareilles situations en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé. Comment ça s'est terminé. C'est vrai, avec les sorties de Talon et tout, beaucoup ne voient pas que demain ça puisse changer. Et donc, mais par contre, moi, j'estime qu'il faut attendre jusqu'aux élections pour voir la matérialisation de cela. D'accord. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est que déjà, on a vu au Ghana, à côté ici, le président qui a annoncé aussi qu'il ne va plus se présenter. Donc, ça fait des deux côtés. Donc, quelque part, cet acte de Talon a suscité une certaine réaction au sein de l'opinion du Togo, parce que, et ça remet en cause la démocratie dont nous parlons dans notre pays. C'est vrai, j'ai connu un professeur qui dit que chaque pays a sa démocratie. Je suis d'accord avec lui, mais ça réveille ou ça suscite encore une certaine indignation des Togolais, surtout pour ceux qui parlent depuis un moment de l'alternance. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir des Togolais qui ont suffisamment relayé l'information
d'accord. Eric, c'est vrai que le journal Liberté a titré sur le sujet hier « Alternance au pouvoir, Mahama ne se représentera pas, Talon passe la main ». Force s'accroche désespérément. Alors, et quand on voit, hein, tel que le sujet fait le débat dans l'actualité, surtout au niveau du Togo, est-ce que ce n'est pas quand même normal que l'opinion en saisisse, hein, pour faire débat?
Mais c'est tout à fait logique, parce que je l'avais déjà dit, hein, c'est un débat politique et c'est ce que nous aimons plus chez nous. Mais j'avoue que ce n'est pas parce que Talon n'a pas cherché à garder le pouvoir. Hein. Mais il a essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes, il faut le dire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on l'a vu. Il y avait même un candidat qui a été annoncé dauphin de Ouattara. Mais à la fin, c'est Ouattara qui est encore revenu pour...
Pour prendre sa chose.
Voilà. Enfin, donc on se demande toujours hein, qu'est-ce qu'il y a là-bas et que quand les gens viennent, ils veulent pas partir. Ils s'y accrochent. Donc nous sommes, les citoyens lambda, on n'en sait rien. Mais c'est tellement qu'il y a quelque chose qu'un jour, quelqu'un parmi eux sera obligé de nous dire que quand tu arrives là, il y a quelque chose et ça c'est comme un aimant quoi qui te prend, tu ne veux plus partir
parce que tout le monde,
on a vu tout le monde. Je vais te dire tout le monde. Actuellement là où nous sommes, Donald Trump est en train de se préparer même pour briguer un troisième mandat. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il a déjà sorti une casquette et il a déjà mis Trump 2030.
Mais Boari n'a pas été sorti parce que là, on a connu Boari.
Attention, je vous dis...
Je crois que ça, c'est un trait africain. Hein. Bon, on dira peut-être que nous avons des pesanteurs culturelles qui nous empêchent d'accepter l'alternance, mais... Je crois qu'il y a une chose. Au moins, lorsqu'on s'accroche au pouvoir, il faut produire des résultats. C'est ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mais s'accrocher au pouvoir sans produire des résultats, ça fait problème. Et ça devient la spécialité du Togo. Hein? Talon au Bénin, on est plus ou moins d'accord qu'il a fait avancer son pays. Même s'il a mis en parenthèse, en veilleuse, la démocratie, sur le terrain économique, il a avancé. Et la preuve, c'est que c'est son ministre de l'économie qui choisit pour le remplacer. Hein. Bon, jusque-là, on verra comment il va se tenir, s'il ne va pas manipuler les choses. On verra. Mais au moins, si on veut mettre la démocratie en veilleuse, si... Politiquement, on n'est pas très poli. Économiquement, il faut être fort. Et il faut faire avancer le pays.
D'accord. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs sur le 90 86 35 35, 91 36 63 75 et également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bien sûr, pour réagir hein, dans cette émission. Allô?
Oui. Allô?
Bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Ok, je pense que certains diront que le Ghana, c'est le Ghana. Le Togo, c'est le Togo. Le Bénin, c'est le Bénin. Mais au Bénin, je pense qu'il n'y a plus de débat. Il ne faut plus penser que Patrice Talon va faire un miracle. Parce que c'est lui-même, avec cette majorité qualifiée qu'il avait, pour faire une constitution à vie, pour se tenir au pouvoir, il a écrit une constitution dont le texte est là. En aucun cas, aucun Béninois ne doit pas faire plus de deux mandats dans sa vie. C'est bien précisé dans sa vie. Donc, il n'y a plus de débat de ce côté. Maintenant, pour parler du 30 août, comme certains diront que la manifestation là, a échoué, tout ça là, tout se trouve l'échec. C'est une réussite totale. On ne fait pas une manifestation au niveau de l'opposition pour que la population s'entretienne. Il doit avoir une la population va mourir d'abord, tout ça là. Non, c'est pas l'option. Nous ne voulons pas utiliser l'option du ministre Christian Simon. Nous voulons qu'on fait une manifestation, on fait une manifestation pour que le gouvernement sente ce qui se passe. Et certainement, le gouvernement a senti. Si le gouvernement n'a pas senti, pourquoi on est parti bloquer Mme Adjamangué dans sa maison en tant que une députée? Si le gouvernement n'a pas senti, pourquoi on est parti bloquer Amron? Pourquoi on avait bloqué Mme Yakadé? Pourquoi jusqu'à présent on a bloqué la voie de GTA 6 site APD? Pourquoi on a fait tout ça là? Le gouvernement a senti, on fait une manifestation pour que le gouvernement sente. Et donc, c'est une réussite totale pour le M66.
D'accord.
Bravo.
Merci, Pélé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Bonjour, Canal FM, ainsi que le plateau. Je remarque depuis que le gouvernement ne veut rien entendre en ce qui concerne les manifestations. Le 30 août dernier, Uni s'est déplacé sur Palimé pour se souvenir de l'appel du 30 août 1969. Le RPT est enterré. Pourquoi cette commémoration? C'est Léonin qui nous écrit depuis Nyekonakwe. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Aris, comment vous allez?
Oui, nous nous portons bien, je suis allé sur le plateau.
Oui, d'accord, allez-y.
Nous avons eu tous les difficultés de vous casser, donc on n'a pas suivi les sujets. Bon, je pense que vous avez un invité spécial.
Non, nous n'avons pas d'invité spécial.
Nous avons entendu quelque chose que nous voulons aussi réagir. Parce que sur le plateau, il y a un invité qui a dit que Talon a tenté de faire un troisième mandat, mais il n'a pas eu. Mais je pense que nous devons essayer d'encourager le courage des autres. Mais même s'il a tenté, il a renoncé finalement. Il n'est pas facile d'ailleurs. Et à chaque fois, c'est comme on prend une essence, c'est pas pour étouffer. Bon, je pense que c'est pas. Selon moi, c'est son point de vue, mais c'est ce que moi j'ai vu. C'est ça. Mais concernant les manifestations qui se disent dans le pays, je pense que je l'ai dit hier que c'est l'État qui a la force. Et c'est l'État qui doit tendre la main à toute l'opposition pour qu'il y ait narcisse, pour qu'on puisse justifier les problèmes qui minent ce pays. C'est ça. Mais il y a aussi un problème que nous avons vu sur les réseaux sociaux pour terminer. Nous avons vu une association qui se dit sentinelle de la République. Bon, je me pose la question, si vous avez la réponse, est-ce que la police et la gendarmerie n'existeront plus? Parce qu'on sait bien que c'est eux qui sont censés de protéger les citoyens et leurs biens. Et tous les institutions de la République.
D'accord, merci beaucoup, Waris. Merci. Hein. Bonjour, Canal FM. Le paludisme est un souci majeur en Afrique avec le nombre important des décès. Mais au Togo, la faim tue plus que le paludisme. Donc, cette campagne n'est pas une priorité chez les Togolais. Maintenant, pour passer l'information, il serait souhaitable que ce soit les médecins et pharmaciens qui viennent nous le dire avec assurance par un journaliste qui ne s'y connaît en rien du domaine. Faisons tout avec professionnalisme. Mais je vous rappelle, c'est Ibrahim qui nous écrit le message. Ibrahim, je vous rappelle que le rôle du journaliste, c'est d'informer. Et c'est important. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
C'est Sylvain.
D'accord, allez-y, Sylvain.
Oui, merci. Je salue tous les autres confrères qui sont aussi avec vous.
Mm.
Bon, pour les vaccins, on dit souvent la nature a l'oreille du vide. En absence de communication des autorités, ce sont les réseaux sociaux qui prennent le dessus. Et bonjour les dégâts. On verra dans les prochains jours. Le vaccin contre le paludisme, c'est une bonne chose. Mais il faut communiquer. Il ne faut pas qu'on nous prenne comme des animaux qu'on amène à l'abattoir. Il faut communiquer. C'est un monsieur, dame. On a la phobie de la communication. Il faut leur dire ça. S'ils vont changer, s'ils changent, ta fille, s'ils ne changent pas, on verra toujours les dégâts. Au Togo, franchement, ce n'est pas une démocratie. Je ne dirais pas la voyocratie, mais ce n'est pas une démocratie qu'on a. La manifestation, on dit marche pacifique. On dit non. on revient, on dit marché silencieuse. On dit non. On va battre les pavés. On dit non. Maintenant, on prend le trottoir. Vous dites non, on est où là? Peut-être que cela est spontané et violent, et peut-être, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Pardon. On est dans une république et c'est une cinquième république. Il faut qu'on sache tout ça.
D'accord. Merci, Sylvain, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Pour ce qui concerne le vaccin, pour le paludisme, moi, mes enfants iront se faire vacciner car c'est pour leur propre bien que chaque parent change la manière ou les manières de voir les choses, que ces vaccins sont faits alors pour tuer les enfants. Merci, c'est André qui nous écrit, bien sûr, depuis Dakar, c'est un Togolais vivant au Sénégal. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, Sénégal, comment vous allez?
Le message de l'amour se porte très bien comme un ange.
D'accord, allez-y.
Au ciel. Premièrement, je remercie le président Talon qui a tenu ses promesses. Pas de troisième mandat. Deuxièmement, le choix de Bobiang Ouadani n'est pas fait au hasard. Être ministre des Finances pendant 9 ans n'est pas facile. Il a sûrement des expériences pour diriger le Bénin. C'est mon point de vue. Concernant la marche, moi, je veux le changement. Merci et bonne émission.
Merci, Ossini, pour votre intervention. Bonjour, le club de la presse. Je pense que le président, enfin le PC, même avait dit qu'il y a quelques années, dans une interview, que pour que la paix et le développement soient une réalité en Afrique, il faut qu'on limite les mandats à 2 ou à 3. Et ma question est de savoir pourquoi n'applique-t-il pas lui-même ce qu'il pense ou croit. C'est Adier qui nous écrit depuis Adakpa. Mais allô?
Ah, bonjour, Pascal.
Bonjour, Basile, comment vous allez?
Très Togolais, dis-moi.
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Diminuez le volume, s'il vous plaît.
Oui, je pense que c'est bon. Hein.
Allez-y.
Bon, mais il n'y a que les gens qui ne veulent pas voir, qui se disent aveugles. Talon, il part. L'homme du Ghana, là, il dit qu'il part. Si on vient, on nous dit que. C'est parce qu'ils ont tenté qu'ils n'ont pas réussi. Vous allez connaître en même temps la position de chacun au secours ici par rapport au malheur qui nous arrive dans le pays. Voilà. Eux, ils n'ont jamais tenté de faire quelque chose et ils n'ont pas réussi. Donc, au Togo, nous, on n'avait jamais tenté qu'une personne ne soit ça là éternellement. Mais voilà. Ça veut dire qu'ils disent que c'est un espoir à ça. Quand la personne est là comme ça, c'est un exploit. Le malheur des gens, on explique que c'est un exploit. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quelqu'un qui vient, on dit que un mandat, deuxième mandat, tu pars, c'est que de. Et si la personne ne part pas, on parle d'exploit. Ils disent que c'est de chercher le pouvoir et le garder éternellement. Voilà des gens, je pense qu'ils ont atteint le cap de l'université. Hein. C'est comme ça que. C'est comme ça qu'ils font le débat. Merci à vous.
Merci, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Michel, je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il se signale. Allô?
Oui, c'était Sylvain qui revient pour boucler.
Oui, Sylvain, oui, allez-y.
Oui, ce que je voudrais dire, ce qui se passe à la frontière, c'est-à-dire que je ne sais pas comment il faut qualifier.
Vous parlez de quelle frontière?
Au Ghana. Mmh. Il y a des gens qui sont à quelques centimètres de la frontière.
Et qu'est-ce qui se passe?
Parce que chaque matin, ils traversent pour aller au boulot. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Il faut que les choses se fassent dans les normes. Franchement, quand on fait bien les choses, ce n'est pas la peine de faire des explications.
Eh bien, Sylvain, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont bloqué toutes les voies. Ils ont bloqué toutes les voies. C'est un calvaire que ces habitants vivent.
Vous voulez parler des petites frontières, c'est ça? Des petites entrées?
Oui, on peut appeler ça bits, je ne sais pas.
Les bits, oui, vous voulez parler des bits?
C'est des voies qu'on emprunte souvent pour aller chez nos parents, nos voisins. Ils ont bloqué. Les gens sont à quelques centimètres.
on leur demande de passer de l'autre côté à quelques kilomètres pour entrer dans leur pays.
Et il a dit que c'est pour... Sylvain?
Oui.
Il a dit que c'est pour raison de sécurité.
Non, quelle sécurité? Il faut bien faire les choses, il n'y aura pas de problème. Vous êtes à l'aise, on est aussi à l'aise. Mais c'est quoi ça?
D'accord. Ok, merci beaucoup Sylvain pour votre intervention. Voilà, Michel, je pense que Sylvain c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission. Merci à tous ceux qui ont réagi dans cette émission. Et nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Eric, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Non, je voudrais dire à certains quand même, hein, comme Monsieur Pelé, qui disait que certains, il fallait qu'ils disent clairement que j'ai dit, parce qu'il me connaît très bien, connaît mon nom. Mais je pense que lui vient parler d'Amron et de Madame Niakade. Mais on ne parle pas de lui. Est-ce que lui aussi il a été empêché? Est-ce que lui, qui veut bien qu'on manifeste, est-ce que lui est sorti? Mais les gens sont là, ils viennent raconter des choses. Mais quand on leur demande, c'est vous qui voulez que ça change. Mais on vous demande de manifester, vous ne le faites pas, mais vous dites qu'on a fait ceci, on a fait cela. Sortez pour qu'on vous empêche aussi de marcher, on va parler de vous aussi. Mais tout ça là, c'est du n'importe quoi. Mais non, je dis, c'est vrai. On parle d'alternance, on parle de changement de pouvoir, on parle de nouveauté, etc. Oui, tout le monde a bien envie de ça. Mais est-ce que les situations s'y prêtent pour que cela se passe? Il faut aller au-delà de ce que nous voulons de nos convictions personnelles. Il y a aussi d'autres paramètres, d'autres choses qu'il faut regarder dans ce qui se passe. Moi, je ne dis pas que Talon a essayé et ça n'a pas marché, que c'est une bonne chose qu'il essaie. Non, c'est pas ce que je dis. Avant de parler, je fais une analyse, je mets d'autres points, hein, et après je dis voilà, c'est comme ça.
D'accord. Claude?
Ah oui, je voudrais dire, excuse-moi, par rapport au vaccin, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que ce vaccin-là a fait des victimes ailleurs. Oui, pour tout ce qui et vaccin, sérum, tout ça qui rentre dans
l'organisme,
ça a des effets secondaires. Ça peut créer des situations plus graves pour certains. Et si c'est pour la majorité déjà, on se dit déjà 5%, 10% de ceux à qui on a administré ces vaccins-là, on peut se dire qu'il y a déjà un problème sur ce vaccin, on peut l'arrêter. Et voilà la raison pour laquelle le ministère nous a bien dit hier qu'on a choisi celui-ci, hein, par rapport à l'autre, parce que celui-ci, on a vu que ça a au moins 75% de réussite dans les 20 pays où ça a été introduit.
Voilà. Merci. Oui, Claude?
Oui, bon, monsieur, le vaccin, Erika dit ce que j'avais envie de dire. Mais sur le plan politique, je crois qu'il faut reconnaître, hein, que le Togo est une anomalie. Hein, une anomalie qu'il faut résoudre. Et la solution se trouve surtout du côté de ceux qui ont le pouvoir. Hein, c'est ça. Il leur faut un peu plus de volonté, un peu plus de lucidité et un peu plus de souci pour l'intérêt général. Hein, nous savons jusqu'où peut conduire l'intérêt. Hein, l'intérêt, moi, je ne sais pas. Hein, peut-être que les gens le disent, d'autres seront au pouvoir, ça aura donné les mêmes résultats. Mais ça ne sert pas l'intérêt général. Lorsqu'on est au pouvoir, on a le pouvoir, c'est pour servir l'intérêt général. D'accord. C'est important.
Ok, c'est important. Ok, oui, Esaïe.
Oui, moi, je vais revenir sur le vaccin. Je crois qu'il est important, comme je l'avais dit précédemment dans mon développement, il est important qu'un travail de communication
soit fait
sur cela. Vous voyez, parmi tous les auditeurs qui ont intervenu, très peu ont abordé le sujet, parce que à un moment donné, C'est vrai, c'est ce qui nous concerne plus, c'est notre santé, mais voilà.
On a parlé de l'agriculture, on n'a pas fait cas.
Oui, on s'intéresse plus à la politique. Je pense quand même qu'il revient aux autorités de faire cette communication. Pourquoi pas des spots en langue locale, pour permettre à tout le monde d'être informé. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais à l'hôpital. Hein. Il y a des parents qui ne vont pas à l'hôpital avec leurs enfants. Ils se débrouillent à la maison. Mais cette fois-ci, c'est dans les hôpitaux que le vaccin est administré. Donc, il faut communiquer pour que les gens aillent vers là.
D'accord.
Pourquoi pas les affiches? Il y a plein de moyens de communication aujourd'hui. Donc, moi, j'appelle à nos autorités à faire ce travail de communication pour que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne prennent pas le devant en essayant de donner, enfin, de décrédibiliser le vaccin avant que l'État ne revienne pour rassurer. Là, ça deviendra plus compliqué pour l'État de rassurer.
Décidément, le ministère doit s'approcher de toi pour que tu lui donnes un plan ou une stratégie de communication. Merci beaucoup, Isaïe Edo. Vous êtes rédacteur en chef du journal Focus Info. Hein. Merci d'être passé. Eric Parkoudjo-Johnson, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Et merci à Claude Asiobotis d'être passé alors dans cette émission. Vous êtes coach et aussi analyste, conseiller littéraire. Écrivain également, merci hein, d'être passé, merci d'avoir contribué à ce débat avec vos analyses. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat, merci à vous. Michel Kokou-Vitogbe, merci à toi pour la mise en onde alors de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.